Décryptage, Anne Cantner.
Bonjour à tous. On l'a observé un peu partout dans le monde depuis quelques semaines, la pandémie de coronavirus fait craindre une pénurie alimentaire. En France, aux États-Unis, comme dans beaucoup de capitales africaines, on a vu une ruée sur les supermarchés. Et aux peurs des citoyens s'ajoutent des difficultés logistiques, d'approvisionnement, le manque de bras pour les récoltes en Europe ou aux États-Unis par exemple, plus la volonté de certains pays de restreindre leurs exportations. Toutes ces perturbations inquiètent beaucoup les organisations internationales. L'OMS, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation, la FAO, toutes les trois ont mis en garde cette semaine contre le risque de crise alimentaire mondiale. Comment l'empêcher? Comment faire en sorte que les principaux pays exportateurs de blé, de riz, maintiennent le même niveau d'exportation qu'avant? C'est notre décryptage du jour. Bienvenue. Un invité avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et les limites de certaines manières de produire, d'acheter aussi, peut-être. Bonsoir Bruno Parmentier.
Bonsoir.
Vous êtes consultant sur les problèmes agricoles et alimentaires. Vous animez le blog Nourrir Manger, qui est aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Bruno Parmentier, vous avez écrit plusieurs livres sur ces questions. J'en cite deux, Nourrir l'humanité et Faim Zéro, tous les deux publiés aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est rare, hein, Bruno Parmentier, de voir trois organisations internationales se mobiliser ensemble. Donc la FAO, l'Organisation mondiale de la santé et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'il y a un risque de crise alimentaire, voire de famine aujourd'hui ?
Oui, c'est rare. C'est une déclaration très solennelle. C'est pour ça que moi aussi, je me suis intéressé à la question derrière. Bon, on a l'exemple de la crise de 2007. En 2007, après plusieurs années où on a consommé plus de céréales qu'on en a produit, il y a de nouveau une mauvaise récolte de céréales dans le monde. Or, les stocks de céréales était faible. Du coup, ça s'est affolé. Un certain nombre de pays exportateurs ont dit « j'arrête, vu le prix, je me garde mes céréales ». Ont fermé leurs frontières. Moi, j'ai découvert ce terme, l'embargo sur les exportations. Et tout s'est emballé. Le prix des céréales a triplé. Il y a eu des émeutes de la faim dans 37 pays du monde. Et le nombre de gens affamés a augmenté de 80 millions dans l'année. Et puis, trois ans après, de nouveau en 2010, mauvaise récolte. De nouveau, tentative d'embargo. De nouveau, doublement du prix des céréales. Et les observateurs s'accordent sur le fait que ça a été très probablement une des causes essentielles des printemps arabes. Qui ont commencé par des émeutes de la faim en Égypte, en Tunisie, par exemple. Ben, les régimes ont sauté et ben, ça finit par des guerres épouvantables qui restent encore en Libye, en Syrie. Donc la réalité, c'est que il y a des pays dans le monde qui produisent plus que ce qu'ils mangent. Il y en a assez peu. Et puis il y a beaucoup de pays dans le monde qui produisent moins que ce qu'ils mangent. Et donc, dans les périodes de crise, dépendre d'agriculteurs qui sont à 10 000 km de chez soi pour se nourrir, ça devient très dangereux.
Alors, on l'a vu notamment maintenant que la Russie a décidé de, enfin, a laissé entendre du moins qu'elle pourrait limiter ses exportations de céréales en mai et en juin prochain. C'est très important puisque la Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé.
Absolument. Mais il faut se rendre compte que les pays qui sont capables d'exporter des céréales, on va surtout parler des céréales, parce que c'est quand même ça l'essentiel de l'alimentation. Hein. Si on a moins de cerises, c'est pas grave. Si on a moins de blé ou de riz, c'est très grave. Bon, des pays qui sont capables de produire plus que ce qu'ils mangent en céréales, il y en a très peu dans le monde. En fait, les plus gros producteurs de céréales, c'est la Chine et c'est l'Inde, il faut se rendre compte. La Chine, premier producteur en tout, hein, premier producteur de riz, de blé, ils sont deuxième en maïs, mais enfin bon. Mais sauf qu'ils sont 1,4 milliard. Donc ils mangent la totalité de ce qu'ils produisent.
Et ils sont ce ne sont pas des pays qui exportent.
Mais des pays qui exportent, ben finalement, il y a la Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine, l'Europe de l'Ouest, les USA, le Canada, l'Australie et l'Argentine. C'est pas beaucoup. Or, il y a toujours des incidents climatiques. Ils n'arrivent jamais à exporter tous beaucoup la même année, parce que, ben, une fois, il y a une sécheresse quelque part, une fois, il y a un ouragan dans l'autre, etc. Donc finalement, il y a une petite dizaine de pays qui tiennent la possibilité de se nourrir pour les pays qui, eux, ne le peuvent pas. Alors pour le riz, ben c'est plutôt ceux qui exportent, ben c'est le Vietnam, hein, c'est la Thaïlande, etc. Mais c'est pareil, un tout petit nombre de pays. Or, il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas se nourrir. Alors, il y a des questions très différentes. Il y a des pays où il n'y a pas assez de terre et il y a trop de population. Alors, le pays typique, par exemple, c'est l'Égypte. L'Égypte, 100 millions de personnes, c'est un immense désert traversé par une seule rivière. Il n'y a que 4% des terres cultivables en Égypte. Il est absolument impossible de nourrir 100 millions de personnes sur 4% des terres cultivables. C'est la même chose au Bangladesh, par exemple. Le Bangladesh, ils sont très nombreux, ils n'ont pas beaucoup de terres cultivables, mais en plus, elles sont souvent inondées. Bon, donc, ces pays-là, de toute façon, structurellement, quoi qu'il arrive, n'arriveront pas à se nourrir. Alors, parmi ceux-là, il y en a qui sont riches. Les paysans suisses n'arrivent pas à nourrir les Suisses, mais les Suisses se débrouilleront toujours pour manger. Les paysans japonais n'arrivent pas à nourrir le Japon, mais le Japon se débrouillera toujours. Mais ensuite, malheureusement, il n'y a pas que ces pays-là. Il y a aussi tous les pays qui n'ont pas investi dans l'agriculture. Alors, en premier lieu, par exemple, les pays pour lesquels ils croyaient que c'était facile, notamment tous les pays pétroliers. Il n'y a quasiment aucun pays pétrolier qui soit bon en agriculture. Et donc, bah, ces pays-là, ils se sont dit, bon, bah, c'est compliqué de faire de l'agriculture, c'est tellement plus simple de vendre du pétrole et du gaz. Alors, bah, par exemple, il y a l'Algérie. L'Algérie, depuis l'indépendance de l'Algérie, elle a triplé sa population, mais elle n'a pas beaucoup augmenté sa production agricole. Contrairement à la France, par exemple, la France, depuis l'indépendance de l'Algérie, elle a triplé sa production agricole. Eh bien, l'Algérie, c'est pas tout à fait pareil. Elle a à peine augmenté sa production agricole depuis 50 ans et elle a triplé sa population. Moyennant quoi, l'Algérie est aussi dépendante de la nourriture des autres que l'Égypte.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer, Bruno Parmentier, si jamais certains pays exportateurs, notamment la Russie, puisqu'elle en parle, limitent leurs exportations? Quelles sont les conséquences pour tous ces pays dont vous nous parliez à l'instant?
Bah, écoutez,
est-ce qu'il y a vraiment un risque de famine?
Ils ont peu de stocks. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du riz, du couscous, du pain, du maïs, de la galette de maïs au Mexique va augmenter. Et effectivement, les plus pauvres n'arriveront plus à se nourrir. D'autant plus que, avec les mesures de confinement dues au coronavirus, bon, ben, toute cette économie informelle des grandes villes du tiers-monde va se casser la figure. Donc, ils auront très peu de revenus. Et le prix de la nourriture de base va augmenter massivement. Donc, effectivement, on va passer d'une situation limite en termes d'alimentation à une situation carrément dangereuse. Ne négligeons pas le fait qu'il n'est pas impossible aujourd'hui que finalement le coronavirus fasse plus de morts de faim que de morts de maladie.
Vous nous parliez tout à l'heure de la crise de 2007 et de 2008 et vous nous rappeliez qu'à cette période, les stocks de céréales étaient très bas, notamment à cause de mauvaises récoltes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'état des stocks? Est-ce que ce qui pourrait générer des tensions, c'est uniquement les décisions de certains pays de limiter leurs exportations, ou est-ce qu'en plus, il y a un problème de stock?
Alors, d'une manière générale, les stocks mondiaux de céréales ne sont plus ce qu'ils étaient. Pour deux raisons. D'une part, l'augmentation de la demande de céréales a été absolument considérable, parce qu'il faut se rendre compte, par exemple, qu'il n'y a que la moitié des céréales qui servent pour les hommes. L'autre moitié sert pour les animaux. La moitié du blé mondial sert à nourrir des cochons et des poulets.
Pour l'élevage.
70% du maïs produit dans le monde, c'est pour les bestiaux. Alors pour le riz, c'est encore majoritairement les hommes. Et comme on a développé énormément l'élevage dans le monde, la croissance de la demande a été beaucoup plus forte que la croissance de la population. Et l'agriculture n'a pas suivi, parce que l'agriculture moderne, qui a réussi à nourrir beaucoup plus de gens en multipliant les rendements dans un certain nombre de régions, hein, pas tellement en Afrique, mais en tous les cas en Asie, en Amérique latine et en Europe de l'Ouest, elle marque le pas depuis 20 ans. C'est-à-dire, des années 60 aux années 90, chaque année, on augmentait les rendements. C'est grâce à ça que les Chinois ont mangé, hein, parce que pendant ce temps-là, ben, ils sont passés de 700 millions à 1,4 milliard. Mais ils ont multiplié par 3,5, 4 ou 5 leur production agricole. Depuis les années 90, ses rendements n'augmentent plus, parce que cette agriculture chimique arrive au bout de ce qu'elle peut faire. Et les inconvénients rattrapent les avantages. Hein, baisse de la fertilité des sols, manque d'efficacité des herbicides et des insecticides, etc. Et donc, on n'arrive plus, l'agriculture mondiale n'arrive plus à assurer l'augmentation énorme de demande. Et donc, il suffit qu'il y ait un incident climatique dans une grande zone céréalière pour que la production mondiale de céréales soit en dessous de la consommation. Et les années déficitaires sont à peu près la moitié des années maintenant, ce qui fait qu'on n'arrive plus à augmenter. Et puis en plus de ça, le stock, c'est plus à la mode. Parce que on a considéré que c'était bien, les échanges internationaux, on était très efficaces, etc. On le voit aujourd'hui pour d'autres choses folles, par exemple les masques. Il y a 10 ans, on avait un stock de 1 milliard de masques en France. Maintenant, c'est tombé à 100 millions parce qu'on trouvait que tout ça c'est ridicule de faire des stocks. C'est un peu la même chose avec le blé, le maïs et le riz.
Alors pour le dire clairement, Bruno Parmentier, est-ce qu'aujourd'hui il y a de quoi nourrir tout le monde ?
Oui, aujourd'hui il y a de quoi nourrir tout le monde, à condition de garder son sang-froid et à condition de ne pas commencer des mesures irrationnelles ou, ce qui est très rationnel mais très dur, des mesures de spéculation. Il y a aussi des gens qui disent ça va être bien, j'ai du stock. Je crée une espèce de pénurie artificielle, mes stocks vont doubler ou tripler de valeur, et je vais m'en mettre plein les poches. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, entre l'affolement général et la cupidité, il n'est pas impossible qu'il y ait des pénuries artificielles, mais actuellement, il n'y a pas de pénurie. Si les pays exportateurs veulent bien continuer à exporter à des prix raisonnables, les pays qui ont une agriculture déficiente peuvent continuer à s'approvisionner.
Mais tout ça est très fragile. Vous nous parliez tout à l'heure du Vietnam aussi, en plus de la Russie, qui a également envisagé de limiter ses exportations. Oui. On ne sait pas encore. Les autorités se sont laissées jusqu'à demain pour se décider.
Le Vietnam qui est l'un des principaux. Cette déclaration solennelle des 3 grands directeurs des institutions spécialisées de l'ONU qui nous conjurent de dire gardez votre sang-froid et ne soyez pas totalement cupides.
Le Vietnam, qui est l'un des principaux exportateurs de riz, est-ce qu'il aurait vraiment la possibilité de faire ça? Parce que par rapport à ce qui s'était passé en 2007, en 2008, au moment de la crise, il y a eu une énorme montée en puissance de la Chine, qui est aujourd'hui le premier importateur mondial de riz. Est-ce que ça peut jouer? Parce que on imagine bien que Pékin a pas du tout envie de voir monter les prix.
Non, mais ceci dit, soyons clairs, la Chine, globalement, arrive à se nourrir. Là où elle est très très déficitaire, la Chine, c'est en soja, parce qu'elle a beaucoup développé son élevage. Donc elle est très dépendante du soja de l'Amérique latine. Mais en céréales, elle est quasiment indépendante d'une année sur l'autre. Donc elle importe, mais pour elle, ça n'est plus le caractère complètement stratégique quand on gardait à l'image la Chine famélique.
Donc pas forcément au point de faire pression et d'essayer d'influencer les prix.
Et donc, pour elle, la baisse du prix du pétrole a beaucoup plus d'action que le prix du blé ou du riz. Mais ceci dit, tout ça peut déraper du jour au lendemain si tout le monde s'affole. D'où cette idée de dire, gardons notre sang-froid, on ne va pas rejeter une crise alimentaire générale dans le monde à la crise du coronavirus, parce qu'on n'y arrivera plus jamais.
D'autres problèmes qui se posent, notamment parce qu'un certain nombre de pays ont fermé leurs frontières pour limiter la progression du coronavirus. Alors, dans quasiment tous les cas, les camions, les marchandises peuvent quand même circuler, heureusement. Mais est-ce que cette situation gêne quand même le trafic? Est-ce que cette pandémie crée des retards ou des difficultés dans la logistique?
Alors, un petit peu. Par exemple, on a eu vent de bateaux de lait en poudre qui n'ont pas été déchargés dans les ports chinois. Bon, en Europe, par exemple, l'Europe s'est construite avec des échanges énormes à travers l'Europe. Bon, par exemple, quand on parle de la France exporte beaucoup de blé, mais elle importe la moitié de ses fruits et légumes. Bon, À ma connaissance, il y a toujours les norias de camions toutes les nuits qui vont du sud de l'Espagne à Rungis. Alors, ceci dit, ce qui est fondamental, c'est les céréales. Mais pour les fruits, cette année, ça va être une chute. Parce que le problème des fruits, c'est qu'ils sont cueillis à la main.
Et on l'a entendu ces derniers temps, les agriculteurs manquent de bras. C'est le cas en Europe, aux États-Unis, en Australie. En fait, on se rend compte, enfin, on le savait déjà, mais les agriculteurs sont bloqués parce qu'ils dépendent de beaucoup, pour ça, de travailleurs étrangers.
Voilà, parce que, je veux dire, dans le temps, quand on avait un jardin potager, ben, c'est la même personne qui faisait les patates, les cerises, les salades et les radis. Alors maintenant, ben, on a industrialisé tout ça. Quand vous avez 200, 300 hectares de melons, ben, vous n'allez pas les ramasser tout seul. Il vous faut des centaines de personnes pour les ramasser. C'est pareil pour les cerises, pareil pour les asperges. Et donc, cette spécialisation de grandes zones monoproduits fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui traversent les frontières pour aller récolter. Parce que, en plus, il faut être clair, la terre est basse, c'est un métier dur physiquement et en général mal payé. Donc, c'est évidemment des personnes des pays plus pauvres qui traversent les frontières pour aller ramasser les fruits et légumes. Or là, les camions passent, mais les personnes ne passent plus. Rien qu'en France, il y a à peu près 270 000 personnes qui sont saisonniers agricoles. Et 80% de ces 270 000 personnes, ce sont des gens d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est. Bon, ben, ils vont plus venir. Alors, un, c'est dramatique parce que c'est autant de gens qui n'auront pas de revenus. Et deux, ben, cette année, on mangera moins de cerises. Et déjà, ça commence, on mange beaucoup moins d'asperges. Parce que les cerises et les asperges, ça se ramasse à la main. Bon, alors, ça a un côté dramatique, mais ça n'a pas l'ampleur du problème que si on manque de riz et de blé, parce que c'est pas la nourriture fondamentale. Et ce problème n'existe pas pour les céréales ou pour les pommes de terre, par exemple. Parce que les céréales et les pommes de terre, ça se récolte avec de la moissonneuse batteuse, il n'y a pas besoin, en tant que tel, de travailleurs immigrés. Donc, il n'y a pas de raison de faire une mauvaise récolte de blé cette année, sauf incident climatique majeur, évidemment, hein, ou de faire une mauvaise récolte de riz. Mais, malheureusement, pour les raisons que je viens d'expliquer, on mangera moins de fruits cette année, et ben, les producteurs de fruits et les ramasseurs de fruits vont traverser une période économique très difficile. Mais on peut vivre sans cerises, on ne peut pas vivre sans pain.
Bruno Parmentier, il nous reste une trentaine de secondes à peu près. Je sais que c'est toujours un peu difficile de prévoir l'avenir, mais est-ce que vous pensez que la crise actuelle pourra amener des changements durables dans certains des fonctionnements et des équilibres dont on parle depuis tout à l'heure?
J'espère que beaucoup de pays diront il faut investir dans l'agriculture, dépendre d'agriculteurs qui sont à 10 000 km de chez nous, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Ça, et donc, ça, c'est une œuvre de long terme. Il faut 10 ou 15 ans pour vraiment améliorer l'agriculture, mais c'est absolument fondamental. On ne peut pas dépendre pour quelque chose d'aussi essentiel que l'agriculture entièrement des autres. Quand on est obligé, c'est bon, mais quand on peut, il faut absolument produire soi-même.
Merci, merci beaucoup Bruno Parmentier d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous tenez le blog et la chaîne YouTube Nourrir Manger. Vous êtes consultant sur les questions agricoles et alimentaires. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur ces questions et notamment Faim Zéro, en finir avec la faim dans le monde, qui est paru en 2014 aux éditions La Découverte. Merci aussi à toute l'équipe de Décryptage, Fabrice Violet, Florence Ponce, Simon Carteret et Patrick Adam. À vous tous qui nous écoutez, sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site internet de RFI et sur l'application Pure Radio. Prenez soin de vous. À lundi.